France Musique.
Alors, d'un nouveau point sur l'actualité sur France Musique avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Interrompu il y a 6 mois maintenant à cause de la présidentielle en Iran, les négociations internationales sur le nucléaire iranien reprennent enfin aujourd'hui en Autriche. Et c'est à Vienne donc que se dérouleront les pourparlers. Tous les pays à l'origine de l'accord conclu en 2015 seront représentés. Les Américains seront là, eux qui ont pourtant dénoncé, on le sait, ce traité quand Donald Trump était à la Maison Blanche. Les États-Unis restent toutefois très méfiants, surtout après l'échec la semaine dernière de la visite à Téhéran du chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Officiellement, l'Iran veut toujours un accord, mais le pays défend aujourd'hui une ligne dure, Christian Chéneau, depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Ebrahim Raïsi.
On est encore loin d'un accord à ce stade, reconnaît un diplomate du Quai d'Orsay qui ajoute inquiet, la coopération des Iraniens avec l'AIEA s'est considérablement dégradée. Le patron de l'agence atomique, en visite à Téhéran, a lui-même estimé que le moment approchait où l'AIEA n'aurait plus de visibilité sur l'avancée du programme nucléaire iranien. Les entraves à ses inspections et le débranchement des caméras de surveillance sont une source de préoccupation majeure. Depuis l'arrivée du président Ebrahim Raïsi, l'Iran semble assumer une posture de défiance. Clément Terme, spécialiste du dossier iranien à l'université Paul Valéry de Montpellier.
Ils sont sur une ligne dure à court terme parce qu'il y a le désir de faire mieux que l'administration précédente. Et en même temps, ils sont très vulnérables à l'intérieur et ils ont un grand besoin d'une levée partielle des sanctions. Donc ça sera entre une satisfaction sur le plan idéologique et une forme de réel politique.
Nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quel accord, nous confiait récemment un diplomate iranien qui insiste sur une levée très significative des sanctions et pas seulement de celles liées au dossier du nucléaire. Le temps presse, car si les négociations n'avancent pas, les centrifugeuses iraniennes, elles, continuent de tourner à plein régime.
L'Afrique australe au banc des nations, les uns après les autres, les pays de la planète referment leurs frontières et interdisent les échanges avec l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Malawi. Oui, la Zambie ou encore l'Angola sont également concernées par ces restrictions de circulation. Elles sont provoquées par la découverte d'un nouveau variant du Covid-19, le variant Omicron. Il a été détecté par les scientifiques sud-africains. Il présente beaucoup plus de variations que le variant Delta. Des cas possibles de contamination ont déjà été signalés en Israël, au Canada, en Australie et en Europe. Le ministère français de la Santé évoque, lui, depuis hier soir, 8 cas possibles enregistrés dans notre pays. La confirmation de ces cas va prendre plusieurs jours, précise l'exécutif. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 8h sur France Musique. Sébastien Lecornu en visite aux Antilles avec 2 réunions importantes, aujourd'hui en Guadeloupe et demain en Martinique. Le ministre des Outre-mer a rendez-vous avec les syndicats, les élus locaux et des personnalités du monde économique. Sur place, la situation est un petit peu plus calme, mais les barrages persistent. Le gouvernement a pour l'instant accepté de repousser l'obligation vaccinale des soignants de quelques semaines. Enfin, une maison commune pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Les partis de la majorité se retrouvent ce soir pour un meeting à la Mutualité de Paris. Baptisé Ensemble Citoyen avec un point d'exclamation, cette nouvelle structure politique rassemblera entre autres La République En Marche, le Modem, Agir ou encore Horizon, le mouvement fondé récemment par Édouard Philippe. 7h passée de 33 minutes à suivre dans la foulée de votre revue de presse Jean-Baptiste Urbain, la chronique d'Antoine Pecker à 7h50 sur France Musique. Il sera question de l'offre symphonique sur le territoire français. Bilan et perspective pour reprendre la formule consacrée.
Et vous, Olivier Denré, vous reprenez la baguette de l'info à 8h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Thank you.
Francis Poulenc, le premier mouvement de sa sonate pour violoncelle et piano avec Edgar Moreau au violoncelle et David Cadouche au piano. David Cadouche qui est en concert demain soir à Rouen au Théâtre des Arts et puis chez lui dans sa ville natale de Nice le 12 décembre dans son nouveau programme Madame Bovary. Ce sera un disque qui sortira d'ailleurs au printemps. Il est 7h40, l'heure de faire le tour de l'actualité musicale.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et d'abord, c'était ce week-end dans le quotidien La Croix, ce cri d'alarme de 50 directrices et directeurs d'opéra et d'orchestre. Dans une tribune, ils s'inquiètent du fait que les salles de spectacle n'aient pas retrouvé la fréquentation d'avant la crise sanitaire. Ils plaident, ces directrices et directeurs, pour que la culture, en laquelle ils voient une source de partage avec le monde, ne soit pas absente des débats de l'élection présidentielle. Le Conservatoire supérieur de Paris annonce un hommage à Florence Badol-Bertrand, un an après la disparition de cette grande musicienne. Psychologue, professeur, le CNMDP organise deux journées d'hommage. Ce sera vendredi soir prochain avec Mozart ou la vie, une fiction musicologique conçue par Florence Badol-Bertrand. Et puis, journée d'hommage toute la journée de samedi de 9h à 18h. La mort de Clément Guérard, de son vrai nom, cet ancien disquaire, journaliste, dessinateur, était une figure de la vie musicale française, souligne le site Res Musica, disquaire au mythique Lido Musique sur les Champs-Élysées à Paris, pigiste, membre fondateur du cercle Richard Wagner de Paris. Klim était le président de l'Académie du disque lyrique. Il fut notamment l'auteur au début des années 1980 d'un livre sur Wagner et récemment d'un livre de souvenirs sur Karajan qu'il avait bien connu. Klim avait 94 ans. Et puis ce matin, plusieurs journaux reviennent sur la disparition de Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine disparue vendredi à 91 ans. Dans le Figaro, Ariane Bavelier donne la définition du compositeur d'une bonne comédie musicale. C'est tout simple, un spectacle qui soit de qualité et populaire. Sondheim, qui ajoute la journaliste, signe un mélange inégalé de swing et de musique contemporaine. Dans Libération, Éric Dahan cite également le compositeur rencontré il y a quelques années à New York. Une chanson dans un musical, c'est une pièce en un acte, dit-il, et elle doit traduire la psychologie du personnage et faire avancer l'action d'un point A à un point B, disait Sondheim. Chaque phrase est une scène, chaque mot doit être choisi avec précision. Contrairement à un poème qui peut concentrer une riche matière, une chanson de musical, disait Sondheim, doit dire assez pour captiver, mais pas trop pour ne pas étouffer l'auditeur. Allez, voici une chanson très courte, mais forte émotionnellement de Sondheim. C'est à nouveau dans Sweeney Todd, Kiss Me.
It is the right weakness being married on Sunday.
Saturday, sir, would also
for just tonight.
I think I heard a noise. Another noise.
Like what?
Oh, never mind. Just a noise.
What's
just another
mind?
Noise.
It's a noise. Just another noise. Something in the street. You still kiss me.
Oh, sir.
We'll go to Paris on Monday.
What shall I wear? I daren't
pack. We'll ride a train.
With you beside me on Sunday. What will I care what things I lack?
Insert a spin.
I'll take my reticule.
I'll take my reticule.
I'll take my reticule.
Why a reticule?
You mustn't think me a fool, but my reticule.
What a reticule. Leave it on a side. And again, again, kiss me.
The name
is
Kiss.
I know of a place where we can go tonight.
We'll go to you, kiss me.
We have a place where we can go tonight. I love you, even as I saw you. Even as it does not matter that I did not know you.
Even as I saw you. Even as it does not matter
that I did
not know you.
Anthony.
Todd.
Kiss Me, Sweeney Todd, Stephen Sondheim, The What the David Keynes, George Earn, Olga McDonald, le New York Oral Artist et l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Andrew Litton. Il est 8h moins le quart, il va faire plus beau aujourd'hui sur la France, en tout cas sur la plupart des régions. Ouvrez les volets et laissez entrer le soleil. alors, vous aimez classique ou pas classique les Beatles? George Harrison à la sauce baroque ce matin avec ce disque paru il y a quelques semaines et cet ensemble baroque montréalais, les Boréades, dirigé par Eric Mills, qui poursuit avec ce troisième volume ses arrangements de chansons des Beatles. Ici, Here Comes the Sun, l'une des chansons des Beatles signée George Harrison. George Harrison disparu il y a 20 ans déjà, aujourd'hui, en ce 29 novembre 2021. France Musique, il est 7h48. C'est la chronique du lundi sur France Musique, c'est la chronique d'Antoine Péqueur, de la lettre du musicien. Bonjour Antoine.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, vous vous intéressez au rôle des orchestres. Une mission vient d'être rendue au ministère de la Culture à ce sujet.
Avec un titre pour cette mission, Jean-Baptiste, pour un nouveau pacte symphonique. Les deux auteurs de cette enquête connaissent bien le monde des orchestres. Anne Pourcin, qui a été directrice de l'Orchestre National de Lyon, et Jérôme Thiébaud, qui lui fut en charge de la médiation à l'Orchestre Victor Hugo à Besançon. Ils se sont donc penchés sur le fonctionnement de différentes formations françaises, mais aussi sur des phalanges étrangères, en Grande-Bretagne ou en Finlande notamment.
Et quelles sont leurs conclusions ?
Écoutez, différents points sont améliorés, selon eux, dans l'activité des orchestres. Déjà, les formations ne couvrent pas de façon équilibrée le territoire. Il y a beaucoup d'orchestres à Paris, vous le savez, mais aucune formation symphonique permanente, par exemple, en Centre-Val-de-Loire ou en Corse. En matière de programmation, il note un manque criant de création contemporaine, de plus en plus remplacée par des projets de musique de film ou de musiques actuelles. Et surtout, et c'est très intéressant, le rapport préconise d'améliorer les conditions de travail des musiciens. Les orchestres ont rarement un lieu à eux qui leur permettrait de développer une vraie identité, mais aussi les actions pédagogiques. Et surtout, en matière de carrière, les musiciens d'orchestre ont très peu de possibilités de mobilité, d'évolution. Ils n'ont bien souvent pas leur mot à dire en ce qui concerne la programmation, les artistes invités, une conception un peu archaïque des ressources humaines.
Cette mission, Antoine Péqueur, dont les conclusions viennent donc d'être rendues, elle se télescope avec une autre actualité concernant les orchestres.
Effectivement, il y a deux semaines, Hervé Morin, le président de la région Normandie, a annoncé le projet de réunir l'orchestre de l'Opéra de Rouen et l'orchestre régional, basé lui à Caen, au sein d'une même phalange. Le but, il est de créer un orchestre national dans le quart nord-ouest de la France, un symbole politique assurément, mais qui ne manque pas d'interpeller. Car certains s'inquiètent d'une sorte d'OPA hostile de Rouen sur Caen, de l'ancienne Haute-Normandie sur l'ex-Basse-Normandie. Pour preuve, l'administration de l'orchestre régional n'avait même pas été convoquée à l'annonce d'Hervé Morin. Or, aujourd'hui, il faut le rappeler, l'orchestre régional, qui a un effectif réduit, mène une politique très importante d'action en milieu rural. Avec une seule formation, comment sera-t-il possible de poursuivre une telle offre dans une région où il faut quand même 3h30, je le rappelle, pour aller de Dieppe à Cherbourg? Ce projet semble entrer justement en contradiction avec les conclusions de la mission dont nous parlions, qui préconise une meilleure répartition de l'offre symphonique sur le territoire. Nul doute en tout cas, Jean-Baptiste, que ce sujet devrait s'inviter au Forum des orchestres. Il aura lieu les 9 et 10 décembre prochains à Metz, d'autant que la présidente de l'Association française des orchestres n'est autre que la sénatrice de Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly, cheville ouvrière de ce projet de fusion des orchestres normands.
Bien, figurez-vous que Catherine Morin-Desailly, on la recevra avec d'autres invités sur cette question des orchestres la semaine prochaine. Donc, je lui posera la question, bien sûr, sur cette éventuelle fusion des deux orchestres normands. Antoine Péqueur, de la lettre du musicien, une chronique culture et politique à retrouver sur francemusique.fr. Bonne semaine. Antoine, soignez-vous bien, parce que vous avez un peu la voix de Dark Vador ce matin. À la semaine prochaine.
Exactement. Je vais essayer. Bonne journée à vous.
Que la force soit avec vous. Cet orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie que vous évoquiez, le voici dans cette fable de La Fontaine, mise en musique par Offenbach, orchestrée par Jean-Pierre Eck et chantée par Karine Dehaie. Souvenir d'école pour certains d'entre vous.
À des reliefs d'or collants sur un tapis de...
Jacques Offenbach orchestré par Jean-Pierre Heck, également à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie, dirigé donc par Jean-Pierre Heck, je viens de le dire. C'était Karine Dehay qui chantait cette fable de La Fontaine, le rat de ville et le rat des champs. Oui, on dit le rat de ville et pas le rat des villes. La fable, c'est exactement comme ça que c'est écrit. Il est 7h54, c'est l'heure de jouer.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
A gagné ce matin le disque de Mad Lover, magnifique disque sorti il y a un an avec Théotime Langlois de Swart au violon, Thomas Dunford au clavecin. Pour le gagner, ce disque, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, dans l'onglet Contactez-nous. Vous laissez vos coordonnées pour qu'on puisse vous l'envoyer, ce disque qui vous êtes fait partie des tirés au sort. Et la réponse à la question, c'est toujours la même. Qui est la voix mystère qui parle ici? On a puisé dans nos archives, les archives de Radio France. Écoutez bien.
L'île, c'est tout bêtement ce phénomène géographique d'une terre entourée d'eau. Et quand je pense à l'île, je pense évidemment d'abord à ma Martinique, je pense à nos Antilles, à tout ce que cela comporte de soleil, de chaleur, de joie. Et puis aussi, il y a l'autre aspect. Il y a un vers de moi qui me revient. J'ai dit, toute île appelle, toute île est veuve. Il y a le sentiment, le besoin d'un dépassement. L'île appelle d'autres îles. L'île appelle l'archipel. L'île appelle le continent chez moi. Et par conséquent, et tout naturellement, chez moi, l'île Martinique, l'île Antilles, mais ça appelle au fond le continent, la mer Afrique.
Quelle est notre voix mystère? Quel est cet écrivain, poète, homme politique aussi? Votre réponse sur francemusique.fr, la réponse dans une heure. Vendredi, la voix mystère était celle de Robert Badinter, jazz et outre-mer, à l'honneur ce matin sur France Musique. Canonge, grand musicien martiniquais, Murmure Rebelle sur son album Zouk Out. Et vous pouvez le retrouver, Marion Canonge, avec Michel Zélino, régulièrement au Baiser Salé à Paris. Prochain rendez-vous ce mercredi à 19h30. On parle du jazz et de l'outre-mer tout à l'heure de 8h30 à 9h sur France Musique. A tout de suite.
Sur francemusique.fr, le podcast Les Musiques de Molière. Découvrez Molière, musicien, danseur. Le célèbre comédien et dramaturge nous embarque avec sa troupe.
Tenez-vous bien, mes amis. J'ai engagé 4 musiciens et un danseur. Ils sont avec nous pour 3 ans. L'illustre théâtre a son orchestre.
Les Musiques de Molière, un podcast de 6 épisodes raconté par Suzanne Gervais avec de nombreux comédiens, à retrouver sur francemusique.fr et l'application Radio France. Une coproduction France Musique, le Centre de Musique Baroque de Versailles et la Comédie Française, en partenariat avec le Château de Versailles.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? Dès 5 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.santé.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Lundi 29 novembre, un temps marqué par une amélioration progressive après un week-end assez instable. 13 départements restent en vigilance orange pour neige, verglas, crue et avalanche. Une amélioration qui s'installera progressivement par l'est. Les précipitations vont faiblir progressivement l'après-midi. Elles persisteront en soirée en montagne, en Méditerranée. Retour du soleil à l'ouest. Le temps reste instable avec une perturbation ce matin sur le Poitou-Charentes puis l'Aquitaine. Un peu de neige sur le Limousin. En début d'après-midi, les pluies se décaleront au sud de la Garonne. Et l'après-midi, ce temps couvert se fixera sur les massifs pyrénéens, ciel variable, souvent voilé sur le reste du pays. Les températures, cet après-midi, 2 à 7 degrés sur la moitié est du pays, 9 à 14 près de la Méditerranée, entre 6 et 10 degrés sur la moitié ouest. Merci d'être avec nous sur France Musique, il est 8h. L'heure d'un nouveau journal avec Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. La Direction Générale de la Santé est évidemment très prudente, mais le ministre Olivier Véran reconnaît que la détection du variant Omicron est une question d'heure. Depuis hier soir en tout cas, un communiqué de ses services confirme officiellement que 8 cas possibles ont été repérés sur le territoire national. Le séquençage de ces prélèvements est désormais une priorité pour les autorités sanitaires pour une confirmation du diagnostic dans les meilleurs délais. Sophie Becherel.
Seul le séquençage du virus permet d'obtenir sa carte génomique complète et donc d'être certain qu'on a affaire à Omicron ou un autre variant. Dans la dernière enquête flash réalisée par Santé publique France début novembre, 99,6% des échantillons séquencés étaient du Delta, ce qui n'empêche pas de surveiller les 0,4% restants afin de s'assurer qu'ils ne représentent pas un risque. C'est ainsi que les virologues ont constaté qu'en 2 semaines, Omicron avait balayé Delta en Afrique du Sud. Doit-on s'attendre à la même dynamique chez nous ? Impossible de le dire, notre couverture vaccinale, la météo, les comportements sont différents. Le séquençage est donc indispensable, mais un peu long. Dans l'urgence, il est possible de s'appuyer par défaut sur les tests PCR. Ceux qu'on utilise aujourd'hui ont été profilés pour identifier 3 mutations. L'une d'elles, L452R, est présente chez Delta, mais absente chez Omicron. Autrement dit, après analyse du test, l'absence de L452R est un indice, une suspicion, pour dire qu'on a affaire à Omicron. Est-ce à partir de cette suspicion qu'on va demander au cas contact de s'isoler ou après le séquençage, au risque de laisser filer de nouvelles contaminations? Le conseil scientifique devrait en dire plus ce matin.
En attendant, la liste des pays qui referment leurs frontières pour se protéger du variant Omicron continue de s'allonger. Le Japon annonce à son tour ce matin qu'il n'accueillera plus aucun visiteur étranger pour les 3 semaines qui viennent. De leur côté, les ministres de la Santé du G7 ont rendez-vous aujourd'hui pour une réunion de travail consacrée à la lutte contre ce nouveau variant. Réunion d'urgence convoquée par le Royaume-Uni qui assure en ce moment la présidence tournante de cette organisation qui rassemble les pays les plus riches de la planète. Sachez encore que le nouveau protocole sanitaire entre lui en vigueur ce matin dans tous les établissements scolaires français. Plus de fermeture donc automatique des classes à partir du premier cas de Covid détecté, mais des tests PCR ou antigéniques pour tous les élèves. Dans la plupart des cas, les enfants devront aller dans les laboratoires pour faire les tests et pour retourner en cours, eh bien, il faudra présenter un résultat négatif sous peine d'être isolé 7 jours à la maison.
France Musique, 8h03, des troupes en ordre de marche dans l'attente d'une candidature d'Emmanuel Macron, la fameuse maison commune de la majorité, va voir le jour d'ici quelques heures à l'occasion d'un meeting à la Mutualité de Paris, Olivier Denré.
Mais pour la photo de famille, on aura droit à un aéropage de personnalités politiques regroupées sous une bannière exclamative baptisée Ensemble citoyens, La République en marche, le Modem, Horizon, Agir, Territoire de progrès, En commun, autant de formations qui prônent un rassemblement de circonstances pour un deuxième mandat du chef de l'État, Rosalie Lafarge.
Ça aura été long, il aura fallu refaire plusieurs fois les plans, ajuster la taille des chambres, mais ce soir chacun aura sa clé. Il va falloir un grand angle pour la photo de famille, se félicite un des colocataires. Parce que c'est bien l'un des objectifs, afficher l'unité pour se démarquer d'une gauche éclatée et d'une droite dont la majorité fait le pari qu'elle le sera aussi en fin de semaine, à l'issue du résultat du congrès LR. Alors non, ce n'est pas la simple bannière qui convenait à Édouard Philippe, ce n'est pas non plus le grand parti tant voulu par François Bayrou, mais c'est un entre-deux. Une association qui officiellement convient à tout le monde. Emmanuel Macron, lui, semble regarder tout cela de très loin. Il est dans la position « aimez-moi les uns les autres », donc ce serait faux de dire qu'il s'en fiche totalement, glissant de ses proches. Le président aurait été très agacé de voir les moutons s'éparpiller. Maintenant c'est bon, il y a la bergerie, résume un autre. Avant de filer la métaphore, les moutons, c'est quand on leur apporte la nourriture qu'ils s'écrasent entre eux pour en avoir plus que le voisin. La bienveillance n'exclut pas le rapport de force, confirme moins moqueur un soutien d'Édouard Philippe. Pas franchement rassurant quand on sait que l'une des missions à venir de la maison commune, c'est d'arbitrer les investitures de la majorité pour les élections législatives.
Une réunion aujourd'hui en Guadeloupe, une autre demain en Martinique. Le ministre des Outre-mer est attendu de pied ferme aux Antilles. Sébastien Lecornu verra des élus locaux, des syndicalistes, des chefs d'entreprise, mais il rencontrera tout d'abord les forces de l'ordre qui, depuis plus d'une semaine maintenant, tentent de contenir la contestation sanitaire et sociale. Avant de quitter la métropole, Sébastien Lecornu a évoqué la possibilité d'une autonomie plus grande s'agissant de la Guadeloupe. Enfin, un avion de l'agence Frontex survolera la Manche à partir de mercredi prochain. Il travaillera jour et nuit pour surveiller et débusquer les passeurs qui poussent les migrants à prendre la mer pour rejoindre l'Angleterre. C'est la principale mesure annoncée hier par la France à l'issue d'une réunion à Calais avec ses partenaires européens. Manquaient autour de la table les Britanniques, dont l'invitation a été annulée après la lettre très critique envoyée à Emmanuel Macron par Boris Johnson, c'était jeudi dernier. Une lettre dans laquelle le Premier ministre britannique demande à Paris de reprendre tous les migrants qui ont traversé la Manche. 8h passées de 5 minutes à suivre juste après votre billet d'actu, Jean-Baptiste Urbain, le reportage de Claudia Prologeau. À 8h10, on verra qu'il n'y a pas que des écoles de samba au Brésil.
Absolument, rendez-vous dans quelques minutes. À demain, Olivier Denré, bonne journée.
Bonne journée, à demain.
Musique Matin, deuxième heure. Il existe depuis la naissance du jazz, mais quelle place le jazz d'outre-mer occupe-t-il aujourd'hui en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins? À l'occasion des rencontres de l'AJC, l'association Jazzé Croisé, qui ont lieu ces rencontres aujourd'hui, demain et mercredi en Île-de-France, focus sur France Musique, sur la scène jazz des Antilles, de la Réunion, de la Guyane et d'autres territoires. Pour répondre à ces questions, à 8h30, nous recevrons Maher Borois, pianiste martiniquais, Nive Racoton-Drenib, programmatrice du Séchoir à la Réunion, et puis Antoine Boss, secrétaire général de ce collectif AJC, qui rassemble plus de 80 diffuseurs du jazz en France. Et puis connaissez-vous Army of Thieves? C'est un film disponible sur la plateforme Netflix. Il mêle zombies, action, braquage et le ring de Richard Wagner. Éclairage signé Max Dozolm à 8h20.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Un titan pour le New York Times, Dieu osait même le New York Magazine en 1994. On le croyait immortel, un théâtre porte même son nom. Stephen Sondheim vient de mourir, il avait 91 ans. Une disparition à quelques jours de la sortie du nouveau West Side Story devant la caméra de Steven Spielberg, que Sondheim d'ailleurs avait trouvé génial, bien plus que celle originale de Robert Wise en 1961. Sondheim était le parolier de cette comédie musicale culte, mais bien plus ensuite un compositeur inégalé de classiques de Broadway, mêlant le swing et la musique contemporaine, le jazz, flirtant avec le dodécaphonisme, les harmonies de Ravel, de Rachmaninoff, une économie de moyens et un hommage à un âge d'or de la comédie musicale, comme ici dans Folies, avec cette chanson Losing My Mind.
The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends, I think about you. And do they know, it's like I'm losing my mind. All afternoon, doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind, or am I losing my mind? I want you so, it's like I'm losing my mind. I'm losing my mind. All afternoon, doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. You said you loved me, or were you just being kind, or am I losing my
extrait de la comédie musicale Follies de Stephen Sondheim, la voix de Barbara Cook et l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Paul Geminiani. Il est 8h12.
Musique Matin, le reportage.
Et ce matin, direction le sud du Brésil, dans la ville brésilienne de Joinville précisément, la seule au monde à accueillir une école du Bolchoï en dehors de la Russie. C'est un projet culturel de plus de 20 ans, mais c'est aussi une structure à grande vocation sociale que Claudia Prolongeau a pu visiter. Voici son reportage.
C'est la première fois depuis le début de la pandémie. La compagnie des jeunes de l'école du théâtre Bolchoï au Brésil rouvre ses portes au public. Sur la scène, Julia, 20 ans, est sorti diplômé l'année dernière de cette école de danse, l'unique extension au monde de la célèbre formation russe. Et dans le public, sa mère, Valeria, n'aurait jamais osé rêver d'un si beau début de carrière pour elle.
Malheureusement, mon mari m'a abandonnée avec mes deux enfants bébés et je me suis dit, si je ne cours pas après le rêve de ma fille, qui va le faire? Alors j'ai complètement changé de vie, j'ai quitté ma région du nord-est natal pour venir vivre avec eux ici dans le sud du Brésil. Au début, c'était très difficile, mais chaque fois que Julia rentrait à la maison après l'école du Bolshoï, tellement fatiguée mais avec des étoiles dans les yeux, je savais que j'avais fait le bon choix. Tout ça en valait la peine. Ma vie serait sans doute beaucoup plus difficile si je n'étais pas entrée dans cette école. Je continuerais à danser, comme depuis toute petite, mais probablement que je n'aurais pas pu en faire mon métier. Et j'ai vraiment du mal à imaginer ce que je serais devenue si je n'étais pas venue ici.
Pourquoi le Bolshoï se retrouve ici, à Joinville, commune moyenne sans attrait majeur, dans le riche sud-est brésilien? L'histoire remonte aux années 90. Le maire est passionné d'art et il profite de la venue de la troupe russe au festival de danse locale pour lancer l'idée. En 2000, la première promotion de l'école du théâtre Bolshoï au Brésil est formée, avec immédiatement une visée sociale. Tout y est gratuit, des chaussons au logement, détaille le directeur Pavel Kazarian.
Et no Brasil, a gente sabe que as diferenças socioeconômicas são muito grandes.
On sait qu'au Brésil, les inégalités sont très importantes. Donc cette école a beaucoup de sens, car elle permet aux familles les plus pauvres de bénéficier de son enseignement de qualité. Et c'est aussi une réelle opportunité pour les enfants qui rentrent ici d'avoir une meilleure vie grâce à leur talent et leurs efforts.
En tout, 214 élèves, de 6 à 19 ans, suivent la même méthodologie que les jeunes recrues russes. 6 ans d'enseignement, avec en plus quelques touches brésiliennes. Maicon Golini a été élève dans la première promotion, avant de devenir professeur ici.
Il y a quelques adaptations culturelles. Les enfants ici étudient des danses brésiliennes. J'ai eu l'occasion de faire 3 échanges au théâtre du Bolshoï de Moscou et j'ai pu constater que la qualité de l'enseignement ici, elle est équivalente. Mais les corps des danseurs russes, ils sont longilignes, ils ont les mêmes caractéristiques. Au Brésil, il y a plus de mixité, de métissage entre les corps. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que, pour moi, les danseurs brésiliens, ils sont plus charismatiques, bien plus expressifs dans leur danse.
L'école a déjà formé 394 danseurs, dont 99 qui travaillent aujourd'hui dans des compagnies à l'extérieur du Brésil.
Reportage à Joinville, au Brésil, signé Claudia Prolongeau, à retrouver sur francemusique.fr dans l'onglet Actualité musicale. Il est 8h16, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité des orchestres. Ce matin, gros plan sur l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sur francemusique.fr. Vous pouvez revoir le concert donné le mois dernier à la Halle au Grain sous la direction du chef allemand Cornelius Meister avec le grand pianiste britannique Benjamin Grosvenor. Au programme, le premier concerto pour piano de Beethoven, dont voici la fin. Thank you. Du premier concerto pour piano avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par Cornelius Meister, et au piano ce grand pianiste britannique, on va le dire à la française, Benjamin Grosvenor. Vous pouvez retrouver ce concert en vidéo sur francemusique.fr. Il est 8h22 tout juste. L'heure de Maxi Classique avec Max Dozolm. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un blockbuster. Il est sorti récemment sur la plateforme Netflix et il s'appelle Army of Thieves.
Thieves. Un film qui mélange de l'action, des braquages, des zombies et du Richard Wagner. Army of Thieves, l'armée des voleurs, est sorti le 29 octobre dernier. Ce film d'action nous invite à suivre l'histoire de Sébastien, un jeune employé de banque qui possède un don hors du commun pour cambrioler n'importe quel coffre de banque. Ses talents l'amènent donc à rejoindre une équipe de malfaiteurs qui ont un objectif simple, réussir à voler les trésors que renferment les coffres les plus sécurisés du monde. Et c'est là que Wagner intervient.
Il était une fois, dans un pays lointain appelé Munich, lointain si vous êtes l'un de mes amis de l'autre bout du monde, un vieux bâtiment au mur de briques à la lisière de la ville. Ce bâtiment était la manufacture d'un serrurier respectable nommé Hans Wagner.
non pas Richard, mais Hans Wagner, un personnage fictif dont le magnum opus n'est pas d'avoir révolutionné le chant lyrique, mais d'avoir fabriqué les quatre coffres les plus sûrs au monde.
C'est dans ces dernières années qu'il commença à produire ses chefs-d'œuvre. Une série de quatre coffres forts.
Ces coffres portent les noms de quatre opéras qui forment la tétralogie du Ring de Richard Wagner.
Das Rheingold, Die Walküre, Valkyrie si vous préférez, le Siegfried, et pour finir, le Götterdämmerung, aussi connu sous le nom de Crépuscule des Dieux.
Dans Army of Thieves, ces coffres forts ont un lien avec l'histoire. Leur apparition suit l'ordre des opéras du Ring. Le premier coffre, couvre Sébastien, porte donc le nom de l'opéra inaugural du Ring, à savoir l'Or du Rhin. Des quatre, c'est le plus simple à ouvrir. Mais pour percer son mystère, il faut bien connaître l'histoire de l'opéra.
C'est un récit sur l'influence corruptrice de l'argent et du pouvoir. Alberic, le nain, a volé de l'or dans les profondeurs du Rhin. Et avec, il a forgé un anneau qui s'est avéré si puissant que les dieux jaloux ont voulu se l'approprier. C'est une version plus nordique du Seigneur des Anneaux de Tolkien.
C'est passionnant.
Et à l'instar d'Alberic qui trompa les vierges du Rhin pour leur voler leur or, je compte aussi sonder des profondeurs, mon bel amour.
Pour ouvrir l'or du Rhin, Sébastien sait qu'il doit faire tourner trois cadrans dans le bon sens. Pourquoi sait-il qu'il doit utiliser ces trois cadrans seulement? Car dans l'or du Rhin, non pas quatre ou cinq, mais trois jeunes filles jouent avec l'or du fleuve. C'est donc en ayant une bonne connaissance de chacun des opéras de Wagner que Sébastien va peut-être réussir, je ne vous dis rien, à ouvrir chacun des coffres. Des cambriolages qui sont accompagnés par la musique de Wagner. Plus globalement, l'histoire d'Army of Thieves suit l'intrigue générale de la tétralogie du Ring. Richard Wagner est donc présent du début à la fin de ce blockbuster. Un extrait de la chevauchée de Valkyrie est même cité furtivement par Hans Zimmer et Steve Mazzaro dans la partition de ce film, au sujet plutôt original.
Richard Wagner revisité dans Army of Thieves, ou Thieves, c'est sur Netflix. Elle ne chante pas de Richard Wagner. En revanche, ce soir, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, avec les frivolités parisiennes, la soprano sud-africaine Preti Yende va proposer un florilège d'air de Mozart, Rossini ou encore Gounod, Roméo et Juliette. Je veux vivre ce rêve. Vous en avez rêvé, France Musique le fait.
Thank you.
Roméo et Juliette, Charles Gounod, Prétillende, l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi, 2000 ans dirigé par Giacomo Sagripanti. Elle est donc en concert, Prétillende, ce soir à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Tel Roméo et Juliette, Émilie et Rodolphe, tous les jours à 9h sur France Musique. Bonjour,
Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer l'émission par un disque absolument formidable. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, L'Art de la Vie de Daniil Trifonov.
Si, absolument, magnifique.
Passionnant, Daniil Trifonov qu'on a souvent entendu dans le répertoire russe, répertoire virtuose. Et là, il se penche sur la famille Bach, un disque d'amour, des premières œuvres de Bach jusqu'à la toute dernière, L'Art de la Fugue. Et c'est un disque qui m'a vraiment enchanté. Donc on ouvre l'émission avec.
Avec de l'amour, à tout à l'heure, 9h.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Il est 8h31 et depuis que le jazz est né, les musiciens des Antilles françaises, de la Guyane française, de l'île de la Réunion, des autres territoires ultramarins occupent une place de choix dans ce genre, dans ce monde du jazz. Mais cette place est-elle réellement à leur mesure? Où les musiciens de jazz jouent-ils aujourd'hui en Outre-mer? Sont-ils suffisamment programmés en métropole? Et comment sont-ils formés également? Voilà quelques-unes des questions auxquelles on va tenter de répondre ce matin à l'occasion des rencontres AJC 2021 consacrées à l'Outre-mer. Elles ont lieu aujourd'hui, demain et mercredi à JC pour Association Jazzé Croisé, un collectif qui rassemble plus de 80 diffuseurs et dont vous êtes le secrétaire général, Antoine Bosse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour lancer ces trois journées. On va vous entendre aussi chez Alex Dutille ce soir dans Open Jazz qui sera en direct de ces rencontres. Avec nous également Nive Racoton-Déréni. Bonjour.
Bonjour.
Nouvelle programmatrice du Séchoir, l'un des principaux lieux de la scène jazz réunionnaise. Et puis avec nous aussi, un jeune et brillant pianiste martiniquais, Maher Borois. Bonjour.
Bonjour.
C'est à vous que j'ai envie de poser la première question. Ces rencontres, elles ont lieu alors que les Antilles françaises vivent des jours difficiles, des émeutes. Un couvre-feu a été instauré sur les deux îles. Ce mouvement social, Maher Borois, qui est parti d'une contestation de la obligation vaccinale face au Covid, c'est un révélateur d'un malaise plus profond dans le rapport des Antilles à la métropole, le débat sur une plus grande autonomie qui a été lancé. Alors on va pas se lancer dans la politique comme ça sur France Musique à 8h32, mais quel est votre sentiment d'artiste martiniquais face à ce mouvement et est-ce que ça révèle des choses aussi sur les artistes vis-à-vis de leur peut-être manque de considération en métropole?
Ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie demande de la population de davantage d'écoute, davantage aussi d'équité et de justice. Je crois que ce sont des choses qui ont manqué ces dernières décennies. Et nous, en tant qu'artistes, alors je parlerai pas au nom de la majorité, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai vraiment le désir d'essayer de travailler à plus de visibilité de la Martinique en général, visibilité du jazz et de la musique martiniquaise à travers ce projet que je soutiens aujourd'hui, qui s'appelle Insula, qui est un hommage à Frantz Fanon. Frantz Fanon dont la disparition sera commémorée le 6 décembre prochain. Ça fera 60 ans qu'il aura disparu. Et donc son combat pour l'égalité, son combat pour ce système anticolonial trouve écho ce qui se passe aujourd'hui en Martinique. Donc voilà, j'essaye modestement d'apporter quelque chose à tout ça.
Nivra Kotondrenib, c'est calme à La Réunion, mais ce manque de considération des musiciens réunionnais ou des musiciens ultramarins de jazz en métropole, est-ce qu'il existe selon vous ?
Oui, il existe, et du coup c'est d'autant plus important qu'il y ait des événements comme ceux qu'organise le réseau AJC pour donner plus de visibilité à des artistes jazz, parce qu'on a une scène jazz très foisonnante à La Réunion, avec une grande diversité, mais effectivement on manque de structuration et d'événements de ce type qui aussi permettent aux musiciens de rencontrer d'autres professionnels et leur permet de faire grandir leurs projets.
On va en parler jusqu'à 9h de ces différents projets. Mais d'abord, musique, Mère Broye, Divin Rivage. Mirage, Maher Borro, j'ai dit Rivage, c'était joli aussi, ça vous va ?
C'était poétique aussi, ouais.
Extrait de l'album Wacha, paru en 2019, avec vous, et puis Lucie Clifford à la basse, Jesse Cox à la batterie, Antoine Beu au violon,
et Julian Velasco au vibraphone.
Et vous, cette composition, on va vous écouter dans quelques minutes à nouveau, et on vous entendra ce soir, en direct, sur France Musique, chez Alex Dutille, dans Open Jazz, en direct de ses rencontres AJC, Association Jazzée Croisée. C'est vous, Antoine Beauce, qui en êtes le secrétaire général. Ça sert à quoi, ce collectif ?
Ça sert à plein de choses. Non, ça sert surtout, en fait, à mettre en avant ce genre d'initiative. Je pense que voilà, le réseau AJC existe depuis maintenant une trentaine d'années. Un réseau de festivals, de lieux investis sur leur territoire, investis pour une programmation, pour des programmations innovantes, des réflexions sur ce qu'est le jazz aujourd'hui, en fait, dans toute la complexité de cette mouvance musicale. Et puis ça sert parce que, en fait, ça permet aux gens de travailler en réseau, ça permet aux gens d'appréhender de nouvelles logiques. Et puis justement, pour reprendre un mot qu'a utilisé Maher tout à l'heure, qui était le mot écoute, ça permet d'écouter, en fait. Donc aujourd'hui, on a là 3 jours, en fait, pour écouter les artistes ultramarins et aussi écouter les professionnels ultramarins qui seront présents. Il y a une forte délégation de programmateur qui sera sur place. Et on est là pour les écouter, pour apprendre, pour comprendre et ensuite imaginer quelque chose.
Écouter les paroles et écouter la musique.
Les deux. Écouter les pros, écouter ce soir la musique. Dès ce soir, dès 18h en effet sur les antennes de France Musique avec Alex et puis après pendant 2 jours, 9 concerts dont parmi lesquels les artistes Jazz Migration, des artistes ultramarins qui ont été sélectionnés justement avec un panel de professionnels. Une fois de plus, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, il est important de savoir quand on ne sait pas justement, et aujourd'hui quand on a porté ce projet-là, il y avait beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas et donc on s'appuie sur ceux qui savent, sur ceux qui font tous les jours. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les professionnels ultramarins qui ont travaillé sur ce sujet-là avec nous pendant 2 ans. C'est grâce à eux qu'on a réussi à monter ce projet.
Mais c'est pas uniquement des rendez-vous professionnels. Le public qui nous écoute ce matin peut venir voir les concerts.
Alors le public peut venir voir les concerts. Après, il risque d'être un peu embêté parce qu'on est quasiment complet. Donc il faudra se dépêcher, mais il peut venir voir les concerts.
Mais il y a France Musique qui enregistre des concerts et qui diffuse. Alors, donc,
exactement,
ce soir,
France Musique enregistre à 18h et ensuite tous les concerts seront enregistrés par Yvan Amar.
Vous, Nive, racontons-nous, pourquoi vous avez fait le voyage? Qu'est-ce que vous attendez de ces 3 jours de rencontre?
Comme
programmatrice du Séchoir à La Réunion.
Déjà découvrir de nouveaux artistes et puis aussi parler de notre réalité à La Réunion en tant que structure qui accueille, qui accompagne et qui coproduit aussi des artistes de la musique. Pas que, mais c'est pas la vocation première du Séchoir, mais on a coproduit notamment le dernier album de Dan Waro. Mais c'est surtout effectivement découvrir des artistes ultramarins, le jazz notamment martiniquais qu'on connaît peu et qui vient rarement à La Réunion. Voilà.
Il n'y a pas de pont particulier entre les différents départements d'outre-mer?
Non, malheureusement, ça n'existe pas. Enfin, ça reste à inventer, en tout cas. Et c'est déjà un premier pas, justement, que les rencontres AJC font.
Antoine Boss?
Oui, justement, je pense que sur cette question des ponts, c'est ce qu'on essaie de créer. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de ponts à part ceux qui sont construits par des humains. Je pense à des gens comme Alain Courbis, qui a énormément travaillé à La Réunion et qui a aussi travaillé sur la Guyane, sur d'autres territoires ultramarins. Et en fait,
les artistes entre eux.
En exactement. Ouais. Et en fait, c'est ces ponts humains qui se créent et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant 3 jours. Voilà.
Après, on a quand même 2 temps forts jazz. Le festival Opus Pocus et la Nuit des Virtuoses qu'organise le théâtre Luc Donat, qui sont des moments de rencontre justement d'artistes extérieurs.
On va reparler tout à l'heure de votre programmation au Séchoir à La Réunion. Maire Beaurois, vous sentez des affinités avec les autres musiciens jazz ultramarins de La Réunion par exemple?
De La Réunion, alors j'ai eu...
Ah
si, en fait, quand je suis arrivé à Paris, il y a quelques années après mon bac et que je quitte ma Martinique natale, je me retrouve à fréquenter les clubs de jazz qui sont remplis de musiciens de tous d'origine, donc les Antillais, des Brésiliens, des Sud-Américains, et donc la musique, en fait, quand elle est fluide, elle se transmet d'elle-même, donc il y a des ponts qui existent depuis très longtemps. Et à La Réunion, j'ai rencontré à Paris Christophe Zogonès, qui est un flûtiste brillant, qui a enregistré sur mon prochain album, qui s'appelle Insula. Mais aussi, j'ai rencontré, quand j'étudiais à Berklee College à Boston, O'Haro, un guitariste, mais aussi... Il y avait deux. Exactement, Matteo Teixeira, exactement. Batteur et guitariste réunionnais, talentueux aussi. Donc, les ponts se font dès que la vibration est bonne, on joue, quoi. Entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a beaucoup d'exemples de collaboration aussi.
Là, c'est plus simple quand même.
C'est plus simple, on est plus proche. Oui, c'est vrai. Mais à La Réunion, en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer 3 musiciens super avec qui j'ai pu faire de la musique.
Les ponts se font des artistes qui sont éventuellement basés à Paris et qui peuvent se rencontrer dans des lieux jazz, voilà.
Maire Beaurois, votre album Insula, il sort quand? Alors, avec les textes de Franz Fanon.
Avec les textes de Franz Fanon, il sort dans quelques mois. Alors il y a une sortie de un single qui sortira, d'un des titres qui s'appelle Insula, dans quelques jours, précisément le 10 décembre. Et donc quelques mois après, l'album complet sortira. Et voilà, j'espère qu'il sera bien accueilli.
Et en avant-première, si on en écoutait un extrait de cet album, puisque vous venez de nous l'apporter, vous voici avec Célène Saint-Aimé. La voix de Célène Saint-Aimé, Mère Borois, c'est une de vos compositions ici, hein, sur alors ce disque Insula.
Effectivement, c'est un arrangement qu'on a fait avec Célène et un autre musicien qui s'appelle Mario Mas, qui est tiré d'un air populaire belay, traditionnel, une musique traditionnelle que nous avons arrangée.
Et un disque Insula qui sortira dans quelques mois et qu'on découvre. Et Célène Saint-Aimé, donc, qui elle est cette révélation jazz. Alors elle est née en métropole, hein, elle est née en Seine-et-Marne, mais elle a des origines martiniquaises et également africaines, d'ailleurs ivoirienne si je ne me trompe. Célène Saint-Aimé qui elle sera ce soir en concert également à la Dynamo à Pantin à 20h30 et enregistrée par France Musique, par Yvan Amar. C'est quoi les débats pendant trois jours de ces AJC Outre-mer, Antoine Boss?
Comme je le disais auparavant, le premier débat, c'est de l'écoute. C'est déjà écouter, donc dès cet après-midi, les professionnels ultramarins sur leur réalité de fonctionnement, sur leur écosystème, pour apprendre, pour comprendre. Et puis ensuite, demain on travaille, j'allais dire, entre nous, entre professionnels, pour essayer d'améliorer la compréhension, de commencer à jeter des ponts, entre guillemets, de collaboration. Il y aura aussi beaucoup de professionnels européens. On a fait un AJC largement impliqué sur différents dispositifs européens. Donc on invite près d'une trentaine de professionnels européens et internationaux qui seront présents pendant les trois jours. L'idée, c'est aussi de leur donner de la matière à comprendre et à apprendre. Et puis ensuite, on termine ces rencontres par un temps de colloque à la Cité internationale des arts mercredi matin, avec des paroles données à des artistes dans un premier temps. Comment on crée, comment on se déplace, comment on travaille la musique aujourd'hui de manière générale, la matière artistique quand on est artiste ultramarin. Et puis ensuite, ils seront rejoints sur scène par trois personnalités que sont Manuel Césaire, donc le directeur de la scène nationale Tropicatrium en Martinique, Jacques Martial, conseiller outre-mer à la mairie de Paris, et Christiane Taubira, dont on sait l'amour pour ses musiques aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée, c'est aussi de confronter ces paroles d'artistes à des paroles institutionnelles, pour essayer de voir quels chemins peuvent se créer pour que demain des collaborations et des coopérations plus durables se mettent en place.
Et parmi ces paroles, la vôtre, Nive Racoton-Drenib, programmatrice du Séchoir à La Réunion, cette scène, principale scène jazz de Lille, l'une des principales scènes jazz de Lille. Comment fonctionne-t-elle? C'est une scène privée?
Non, en fait c'est une scène conventionnée, pluridisciplinaire. Alors notre vocation première, c'est pas la musique, c'est plutôt le cirque, mais on a toujours été pluridisciplinaire. On programme du jazz depuis très très longtemps. On a programmé, enfin voilà, plein d'artistes qui sont venus sur la scène du séchoir. On a deux structures en fait, une scène en extérieur qui s'appelle le K et une salle fermée qui s'appelle le séchoir. Voilà. Et on est plutôt éclectique en fait. On cherche vraiment à proposer des artistes différents qui ont vraiment une vision complètement différente de ce qui se fait à La Réunion. On accompagne beaucoup les artistes qui cherchent un peu la mixité avec le maloya, pas forcément du maloya pur, le traditionnel, maloya, qui est la musique principale de La Réunion, de la culture réunionnaise. Voilà, donc on est assez ouvert, assez éclectique.
C'est dans les deux sens aussi, vous invitez des musiciens de jazz métropolitains.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Américains, européens.
Alors américains, c'est un peu plus compliqué. Parce que notre principale problématique, c'est quand même qu'on s'y situe très loin. Ouais. Voilà, à 10 000 km. Donc dès qu'on fait venir quelqu'un.
Africain.
D'ailleurs, ou d'Afrique, bien sûr. En fait, on essaie vraiment de mutualiser ce type de programmation avec les autres structures. Pour qu'il n'y ait pas qu'une seule date à La Réunion.
Justement, pour rebondir sur ce que disait Nive sur la relation en fait qu'on peut avoir avec les Outre-mer aujourd'hui, ce qu'on essaie de construire ou en tout cas de mettre sur la table, c'est que évidemment des relations entre l'Hexagone et les Outre-mer sont importantes, mais en fait les premiers territoires d'influence et des Outre-mer ne sont pas forcément l'Hexagone. C'est-à-dire que La Réunion, évidemment, il y a une connexion évidente avec l'Hexagone, mais ce n'est pas forcément son premier territoire, comme les Caraïbes, ce n'est pas forcément le premier territoire de diffusion. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir de manière internationale. Ces choses-là, elles ne se situent pas uniquement entre l'Hexagone ou la métropole et les Outre-mer, elles se situent de manière plus large avec des zones de diffusion.
Effectivement, à La Réunion, on a une forte influence régionale avec Madagascar, l'île Maurice, l'Afrique du Sud qui est pas très loin.
Ti fera la mue mi rodato dan san waro mon souffle souffle autant longtemps anachronis l'époque kamayon en foutant. Ti fera la mue mon souffle souffle autant longtemps kamayon en foutant. Tu feras la moue, mon souffle souffle autant longtemps, kamayong en foutant. Et ma lol les silo calé créé dans mon lobite. Mais moi, mon zézère, tous les citants tellement faux, tant vos oreilles battent dans mon corps. Par quand par cloco, comment que ça ou ça nous samo? Par quand par cloco, par quand par cloco, comment que ça ou ça nous samo? Par quand par cloco. Tu feras la moue, mon souffle souffle autant longtemps, kamayong en foutant.
Elle s'appelle Anne Ouaro, elle sera demain soir à la Dynamo de Banlieue Bleue à Pantin dans le cadre de ses rencontres à JC. Demain à 18h, concert enregistré par France Musique, elle est réunionnaise. Et j'imagine, Nive Racoton-Drenib, que vous l'avez déjà programmée au séchoir.
Tout à fait, on l'a programmée et on l'a coproduit aussi sur son nouvel album, voilà, qui paraîtra en février-mars 2022.
Vous la connaissez, Maëlle Borois?
Non, malheureusement pas encore, et j'ai hâte de rencontrer sa musique et elle-même aussi.
Demain en trio à 18h, comment apprend-on le jazz aujourd'hui à la Martinique? Comment ça s'est passé pour vous?
Moi, j'ai commencé par beaucoup de, dizaines d'années de musique classique comme beaucoup d'apprentis musiciens.
Pas au conservatoire, il n'y a pas de conservatoire.
Pas au conservatoire, non. Non, il n'y a pas, il y en a pas, malheureusement. Donc, c'était des cours particuliers pendant toute ma jeunesse en Martinique.
Juste malheureusement, c'est quand même, ça peut paraître quand même très.
Ben, malheureusement, il n'y en a pas parce qu'en fait, ce qui.
C'est surprenant, voire scandaleux.
C'est. Alors, c'est surprenant, oui, effectivement. Scandaleux aussi, on peut l'imaginer. Quand je suis arrivé ici à Paris, ça crée en fait une sorte de discrimination finalement face à l'accès de l'éducation musicale. Donc comme beaucoup d'ultramarins, quand on arrive dans l'Hexagone et qu'on a reçu une éducation essentiellement orale, il y a beaucoup de choses à réapprendre dans un langage plus académique. Donc il y a plus de travail. Bon. On a tous bien réussi, ça nous a pas empêché de réussir, mais effectivement l'accès à l'éducation musicale d'un point de vue national, en tout cas d'un point de vue hexagonal, n'existe pas encore en Martinique.
Et donc ensuite vous avez fait aussi vos études
aux
États-Unis.
Tout à fait. Alors moi je suis finalement il n'y a pas de conservatoire en Martinique, mais je suis quand même finalement un produit du conservatoire à Paris, dans le 13e arrondissement, le conservatoire Maurice Ravel. Je suis allé à l'université de la Sorbonne pour étudier la musicologie. Donc, il n'y avait pas de conservatoire en Martinique, mais je me suis rattrapé par la suite. Et effectivement, je suis parti aux États-Unis après. Ouais.
Antoine Bosse, il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle aussi des musiciens d'outre-mer qui jouent ici en métropole. Est-ce qu'on n'a pas parfois un peu tendance à les mettre dans des cases? On diffusait tout à l'heure le grand Mario Canonge qui joue depuis des années au Baiser Salé. C'est formidable le Baiser Salé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des niches et du coup ça diffuse pas très largement parce qu'on met dans la case jazz ou ultramarin avec musique créole?
Si, c'est justement ce qu'on va chercher aussi à déconstruire à un endroit, en fait. C'est à la fois les clichés qu'on peut avoir et à la fois la facilité que le système culturel et que les politiques culturelles françaises ont à ranger dans des cases les genres. Donc oui, on va essayer de déconstruire tout ça.
Vous ressentez ça aussi, Nivra?
Oui, complètement, oui. Parce que dans les projets qui sont exportés, souvent, quand il n'y a pas une touche, une note traditionnelle, ça pose un problème. Alors qu'en fait, on n'est pas forcément obligé, parce qu'on vient de la Réunion,
de faire
du maloya ou de jouer au cayambe. Même si ce sont des instruments super, c'est un instrument super, on n'est pas obligé, quoi.
Vous avez ressenti ça aussi, mais pour moi, c'est pas
sûr.
Assez
c'est-à-dire que...
caribéen, pas assez créole.
Non, mais comme tu dis, effectivement, Nive, effectivement, notre antillanité en fait est imposée finalement. Quand on vient des Antilles, on est censé faire une musique antillaise. Quand on propose autre chose, ça pose problème parce qu'on sort du coup du cadre et du format qu'on nous a imposé. Donc
et on sait plus où nous mettre. Du coup.
Et on ne sait plus où nous mettre, exactement.
Eh bien, vous êtes sur France Musique. France Musique qui n'est toujours pas diffusée en Outre-mer. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question qu'on pose régulièrement sur cette antenne, mais c'est aussi en écoutant du jazz à la radio, sur France Musique, sur FIP ou sur d'autres antennes, qu'on peut la découvrir, non, Mère Bora?
Absolument, bien sûr.
Elle est du jazz,
yeah,
sur France Musique avec. Qu'est-ce qu'on entend là?
The Big In Jazz Collective. Yeah.
Chandelle Kalima, vous êtes la montagne l'enchère. Personne pas t'es qu'à penser, il t'est qu'à briller Saint-Pierre. Où les faits nous comprennent cher, Saint-Pierre pas t'es pollué pièce. Il t'est pollué tellement, c'était en prostituée. Yéba Yaradé, yarada, yarada, yaradé. Chandelle Kalima, en tête la montagne l'enchère. Personne pas t'es qu'à penser, il t'est qu'à briller Saint-Pierre. Où les faits nous comprennent cher, Saint-Pierre pas t'es pollué pièce. Il t'est pollué tellement, c'était en prostituée.
La voix de Mère Bora sur cette chandelle Big In Jazz Collective. Bientôt l'album Insula, merci à tous les trois. Le jazz outre-mer à l'honneur sur France Musique. Rendez-vous ce soir à 18h en direct, Open Jazz avec vous, Maher, et puis également les micros de France Musique qui enregistreront tous ces concerts. Il reste quelques petites places. Antoine Beauce, enfin, on peut tenter sa chance à Pantin ce soir et demain soir. Et puis, bah, rendez-vous à La Réunion. On irait bien faire une émission à La Réunion, ou plusieurs.
N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
Demain, notre invité sera la pianiste Dana Ciocarli à la technique. Aujourd'hui, il y avait Emmanuel Morse d'Incan, Swat Boukorsa, Marjolaine Portier, Kelton Bach était à la production avec Flora Sternadel et Pierre Matignon, Yacine Bouzard à la réalisation. Notre voix mystère il y a une heure, la voix à découvrir, c'était celle d'Aimé Césaire. Bravo à nos gagnants. Bonjour Émilie Munera. Bonjour Rodolphe Bruno Boulmier.
Bonjour Jean-Baptiste. Et il y aura des voix, nous aussi, dans cette émission. Et quelles voix?
Les vôtres?
Alors déjà les nôtres, mais encore mieux, celle de Julie Fuchs, celle de Sabine Devielle, je vous jure, celle de Michael Spiers, entre autres pour le mythe de Mozart.
Ça fait quand même...
Bah oui, on peut pas rivaliser, même si on a
trio.
De très jolies voix.
Allez, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.